Entre Fayard et Sapin,
entre Plaine et Doline,
des voix furtives,
entre Mobilette et Silex,
entre Scooter et Tetra,
les voix se glissent,
double Blafip,
chèvre et cochon,
les voilà qui rebondissent,
dans la bergerie,
dans le garage,
dans la dameuse,
dans le chasse-neige,
et le tunnel,
les voix se choquent et s'entrechoquent,
et toquent,
grotte profonde,
crête ventée,
boulangerie,
cours d'école,
des voix sur un plateau,
une émission
tout en Vercors.
Bon appétit.
Bonjour Bernard.
Bonjour Annette.
Eh ben, tout d'abord, on va souhaiter une excellente année à tous nos auditeurs.
Une année pleine d'auditions. Peut-être pas intéressante puisqu'on est sur des voix sur un plateau.
Pourquoi
mais en
même
tout cas, de rencontres. Et puis, je fais aussi un appel pendant ce temps-là pour dire si vous avez des personnes qui ont envie de parler au micro et qui, de préférence, agissent sur le plateau du Vercors, on est tout oui pour tout écouter. Voilà. Bien, à part ça, ben, notre cœur est un peu triste parce que tu sais qu'on a perdu Serge Saint-André.
Serge Saint-André, eh oui, qui était donc le maire, entre autres, de la chapelle en Vercors.
Et un personnage qui nous avait accueillis au mois de janvier de l'année dernière et qui était vraiment intéressant par son passé, mais aussi la façon dont il avait de se battre pour faire avancer les choses et aussi pour montrer que le passé répond de l'avenir. Et là, c'est vrai que Serge, je l'appelais Serge, hein, parce que c'est vrai qu'il nous avait accueillis dans son bureau de maire. Il est parti il n'y a pas très longtemps, alors nous allons refaire une petite repasse.
Une rediffusion donc d'une émission, pour ceux qui ont eu la chance de l'écouter et l'année dernière, en février. Écoutez-le, l'histoire de toute une vie.
Eh bien, donc, à très bientôt, et puis on vous dit au revoir, et bonne écoute, et à l'hommage de Serge Saint-André.
Son pompe en mute, un ballon pour la fond pour Cella, pour la relance de l'équipe de France, de son pompe en mute, Cella la croisée pour Camerabero, on est sur une médiane, coup de pied à suivre, c'est bien joué, Camerabero qui récupère le ballon, coup de pied de recentrage, Philippe Saint-André arrive, plein champ pour le premier essai de l'équipe de France, superbe, quel essai des Français! Après seulement 11 minutes dans ce match, premier essai pour l'équipe de France, un essai de 110 mètres, avec au départ une relance de Serge Blanco, un essai magnifique. C'est là qu'il va attendre du soutien, l'escarbourg, j'allais dire. Camerabero arrive pour la croiser, et regardez un peu ce que fait Didier Camerabero, coup de pied à suivre pour lui-même, il récupère la balle. Il a aperçu, il a tourné la tête, il a aperçu Philippe Saint-André au centre du terrain. Il donne un petit coup de pied de recentrage. Et Philippe Saint-André n'a plus qu'à aller aplatir entre les poteaux. Un essai d'anthologie.
Ouais, donc je m'appelle Serge Saint-André, je suis né le 24 novembre 1941 à la chapelle en Vercors, d'une famille du plateau. Mon père était l'instituteur du village depuis 10 ans. Et ma mère était institutrice toute sa vie sur le plateau. J'ai habité dans toutes les écoles pratiquement du canton. Et quand mon père, qui était l'instituteur du village, a été fusillé dans la cour le 25 juillet 1944, j'avais 32 mois et un jour. Donc dès que j'ai eu une dizaine d'années, j'ai commencé à interroger d'abord les gens de ma famille, puis les gens du plateau, de la chapelle en particulier. Et j'ai essayé de retrouver les gens qui avaient tué mon père. Ça a été très difficile. Je suis allé en Allemagne, en Bavière en particulier, puisque la 157e division d'artillerie de montagne de réserve, qui était stationnée à Grenoble, est commandée par le général Faume, avec trois officiers supérieurs, le lieutenant-colonel Schweig, le lieutenant-colonel Schwer et le lieutenant-colonel Maximilien Kreninger, étaient des anciens officiers de la Première Guerre mondiale, hormis le colonel Schwer.
Vous avez pris conscience dès l'âge de 10 ans, personne ne vous l'avait trop dit, en fait, finalement, il y avait une chape de plomb ou...
Oui, il y a une chape de plomb, même à l'intérieur de ma famille, ma mère, j'ai beaucoup de difficultés à parler avec elle.
D'accord. Mmh. C'est resté...
Oui, c'était un sujet un peu tabou. J'ai passé 50 ans de ma vie à rechercher. Donc je suis allé en Bavière quand j'avais une vingtaine d'années. Je ne parle pas un mot d'allemand. Je joue au foot à ce moment-là à Reims. Et j'ai un de mes camarades qui jouait avec moi, qui était Laurent, qui parlait allemand couramment. Donc je suis allé en Bavière, je suis allé dans des petits villages pour interroger éventuellement des gens qui se trouvaient là, dans cette division donc, d'artillerie de montagne. Puisque les parachutistes qui sont arrivés à Vassieux étaient des gens qu'on ne sait pas d'où ils venaient. Et j'ai reçu que des réponses négatives. Je suis allé 2 ans de suite en me disant qu'ils étaient tous sur le front de l'Est, qu'il n'y en avait point sur le front de l'Ouest.
Là, vous étiez dans la rancœur de la jeunesse ou dans...
Je le suis toujours.
D'accord.
Je le suis toujours. Ils ont bousillé la vie de ma mère, ils m'ont bousillé la mienne. Donc je n'ai jamais pardonné, je pardonnerai jamais. Je comprends que les générations d'après puissent pardonner. Hein, j'ai des enfants, des petits-enfants. Mais moi, personnellement, non. On soit tué avec un fusil sur le front, c'est différent. Mais là, massacré dans une cour, ils étaient 16, 14 ont été tués au pistolet mitrailleur. Mon père et un de ses amis, M. Rome, ont essayé... De s'échapper. Lui, il a été tué contre la porte de la cuisine de la ferme, une balle derrière la tête, et M. Rome de mettre derrière lui de la même façon. Donc, j'ai pas pardonné, je pardonnerai jamais. Maintenant, je comprends fort bien que les générations de maintenant, sont peut-être pas pareilles, je sais pas.
On voit que là, on est dans les 50 ans qui rapprochent les deux pays.
Et surtout, c'est que quand je suis allé en Bavière, je n'ai pas trouvé donc des gens qui étaient sur le front de l'Ouest, ils étaient tous sur le front de l'Est. Et dans un petit village, grand comme Vassieux, où j'étais, je mangeais depuis 2-3 jours, j'ai vu au bout du petit restaurant, Un jeune homme à peu près de mon âge, qui avait une vingtaine d'années, 22 ans, il avait 2 ans de plus que moi, qui était... Et j'ai vu que c'était pas un Allemand, alors j'ai essayé d'aller lui parler, il parlait pas anglais ni français. On a baragouiné un tout petit peu en anglais, mais très peu, puis avec des dessins, c'est compris. C'était un jeune Ukrainien qui, en fait, venait demander des cordes aussi, comme moi. Lui, c'était encore pire que moi, puisque son père, sa mère, ses 2 sœurs, et son frère s'était fait tuer. Lui était caché derrière un sac de pommes de terre dans un village à côté de Kiel et il en avait réchappé. Et lui, il était depuis là quelques jours, il allait faire comme moi, il allait repartir. Les gens qu'il avait interrogés étaient tous sur le front de l'Ouest et il n'y en avait pas sur le front de l'Est.
Donc, d'accord.
J'ai abandonné là mes recherches en Bavière. Pour me concentrer sur les archives et tout, mais les archives allemandes se sont ouvertes il y a une dizaine d'années, pas plus. Et là, j'ai retrouvé certaines choses. Et puis, je me suis surtout basé sur la thèse qui a été faite par un jeune étudiant allemand du nom de Peter Lieb, qui, pendant plusieurs années, est venu dans le Vercors. Il était étudiant, il n'avait pas fini, en interrogeant lui, par contre, contrairement aux 22 écrivains français, à part 2 ou 3 qui ont posé les bonnes questions aux bonnes personnes dans le Vercors, les autres ont interrogé des gens ou qui n'étaient pas là ou qui ont raconté un tissu de mensonges. Puisque, même si longtemps après, on parle de SS qui sont arrivés à Vassieux, alors que c'est complètement faux. C'est des chasseurs parachutistes, leur vrai nom, qui faisaient partie du fameux bataillon Luftwaffe de la Luftwaffe, des gens qui s'étaient illustrés en Russie, en Crète, à la tête de pont de Tunis. Et c'est ces gens-là qui, en fait, tant de mal, 80% des crimes du Vercors sont attribués à ces gens-là.
D'accord. C'était donc, pas voilà, des... C'était vraiment des...
C'était des gens entraînés. C'était des commandos de l'armée de l'air allemande.
D'accord.
Donc c'était donc, voilà, alors j'ai fait... J'ai trouvé beaucoup de choses. Je n'ai pas retrouvé tout. Je me suis après focalisé, bien sûr. Je sais, je connais parfaitement le plan d'attaque du Vercors. Mais je me suis après focalisé plus sur la cour des fusillés, sur la chapelle, puisque j'étais partie prenante avec la mort de mon père. Donc, bon, j'ai retrouvé tous les noms de ceux qui commandaient, des Allemands et officiellement qui commandaient. Mais dans la cour des fusillés, je ne saurais jamais si c'est un officier ou un sous-officier qui commandait le groupe de combat. L'armée allemande était faite de différentes façons que l'armée française. Le groupe de combat de 12 hommes, commandé par un sergent et puis un caporal, eux, ils étaient 30, donc ça pouvait être ou un officier ou un adjudant.
Ami, si tu tombes,
ami, si tu tombes,
un ami sort de l'ombre,
sort de l'ombre,
à ta place,
à ta place.
Demain du sang noir séchera au grand soleil
sur les routes.
Chantez compagnons,
chantez compagnons,
dans la nuit, dans la liberté,
la liberté,
ils nous écoutent,
écoute.
Chantez.
D'accord. Et votre père était rentré dans la résistance ou c'est parce que de fait
il était réfractaire au STO, caché dans la forêt au-dessus de Tourtres là-bas où mes grands-parents paternels avaient une maison à Tourtres là. Et puis il revenait nous voir. Nous on était au hameau de Chabert puisque le logement à l'école, mon père voulait plus qu'on y aille, il avait peur qu'il brûle l'école, et puis la maison de famille qu'on avait là avait été détruite. Elle était complètement détruite par les bombardements du 12 juillet 1944.
Et votre mère, elle participait aussi à la résistance?
Non, ma mère, elle s'occupait de moi, j'avais 32 mois.
C'est ça, ouais, ils étaient déjà une sacrée affaire en pleine période, comme ça.
Ouais. On s'occupait, on avait été réfugiés, on couchait dans une grange, là au hameau des Chabert, à 2 km de là où il a été ramassé. Le jour même où ils l'ont tué, puisqu'il a ramassé le matin, ils l'ont tué.
Ouais.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I have lost my wife and children, but I have many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers of my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then will come from the shadow.
Les Allemands ont été chez moi, ils me disent résigne-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de monde. J'ai perdu femme et enfant. Mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés. Les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise.
Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
En fait, nous, ce qu'on va essayer de travailler avec le mémorial de la Résistance, ce serait les enfants d'après-guerre. Ouais. Comment cette époque-là a changé votre vie, finalement, hein? Comment bon, vos parents, comme vous disiez, bon, votre père tué, votre mère qui essaye aussi de continuer la vie en faisant abstraction. Et malgré tout, vous aviez qu'un an et demi. Et cette période, vous
mariage.
Voilà. Cette période vous a suivi tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Ben, j'ai été doté d'une très bonne mémoire. Et le jour où ils ont ramassé mon père, j'y étais, puisqu'ils nous avaient tous mis en jour là-bas. Mmh. Et je ne revois pas la tête de mon père, mais je revois la voix gutturale de ces Allemands-là. J'ai gardé cette image.
Cette violence.
Et c'était les gens qui descendaient. Vivement, c'était les chasseurs alpins du colonel Schwer. Et même longtemps après, comme ça, j'en rêve la nuit, ça ne m'a jamais passé. Je ne revois pas la tête de mon père et je revois ces gens qui s'étaient mis des branchages et descendaient. Donc du vivement, ils s'étaient garnis autour des branchages.
D'accord.
Et j'ai cette image. Et je rêve environ une dizaine de fois dans l'année de ces gens-là.
Oui.
Et puis j'ai le souvenir quand même du lendemain de la mort de mon père, puisque quand on est retourné dans la grange où on couchait, le propriétaire de la ferme, M. Roland en l'occurrence, dont les deux fils ont été tués avec mon père, dont un avait 17 ans, 19 et 17 ans, ils n'ont plus voulu qu'on couche là, ils avaient peur que les Allemands reviennent, brûlent tout. Alors on a couché dans les bois pendant 3-4 jours. Et j'ai l'image, je revois ma grand-mère qui posait des draps, là j'ai l'image, et qui disait « La vie s'annonce difficile. » Et non seulement elle s'annonçait difficile, mais elle l'a été. Parce qu'après on a été, pour ma part, pour la part de ma famille, je parle de ma mère, de ma grand-mère, et il y avait encore mon vieux grand-père qui avait 94 ans. On a été recueillis à Saint-Martin par des cousins, on est resté à peu près 2 mois et demi et ça. Donc après, on a fait une demande pour être logé. On nous a donné la moitié d'une villa à Romain, là, chez un milicien qui s'appelait Arnoux. Et puis là-bas, on a failli se faire tuer par les résistants. Ils sont venus une nuit, ils croyaient que le gars y était, tiré dans les
volets
et tout. Alors après, mon grand-père est mort. Mon arrière-grand-père est mort. Alors on est remonté à la chapelle. Entre-temps, ma mère avait demandé, elle avait fait des études, heureusement, elle avait demandé une place pour être instite. Donc après, on est remonté ici sur le plateau et on a habité dans les différentes écoles du plateau. J'ai habité à Chabot, j'ai habité à Saint-Martin, à la Jargeate, à Lossens, au fort là-bas, à la Britière. Et puis, nous ici, on avait un baraquement, ma grand-mère avait un baraquement. Alors des fois, je restais là dans le baraquement, des fois à l'école. Donc pendant des années comme ça, donc, la vie a été dure. Ouais. En plus, on s'est retrouvé dans 100 maisons, la maison brûlée. On n'avait plus d'appartement à l'école, bien sûr, là, ici, puisque mon père était mort. En plus, sa paye qu'il avait touchée 2 jours avant de se faire tuer, c'était un argent liquide, on l'a perdu. Hein. J'ai retrouvé son alliance. Il y a 10 ans en arrière, j'ai sorti son corps pour changer le cercueil. Bon, j'ai pris sa tête derrière dans mes mains pour voir, il avait un trou derrière, là, puis du coup à l'intérieur c'était un bout d'os qu'il y avait. Et j'ai retrouvé son alliance et sa chevalière que j'ai pour aujourd'hui. C'est le seul truc que j'ai récupéré.
Vous avez récupéré, j'allais dire, le mot récupérer n'est surtout pas le terme, cette volonté d'aller toujours de l'avant. Et vous avez transmis aussi, je pense que c'est important pour nos auditeurs que vous nous parliez aussi de vos enfants. Oui, parce que je pense que vous les avez tenus au courant de cette histoire de leur grand-père.
Dès qu'ils ont été petits, et mes fils ont fait, surtout les nés, une très brillante carrière sportive, hein, parce que. Mon fils aîné, c'est l'entraîneur de l'équipe de France de rugby. Après avoir joué pendant 10 ans en Deux-Barnes, avoir été le capitaine 34 fois, il a joué 69 fois dans l'équipe de France de rugby. Et il en parle souvent, ça lui a donné une force supplémentaire parce qu'il se voyait un peu comme l'héritier de ce gars qui s'appelait comme lui, puisque j'ai appelé mon fils comme s'appelait mon père. Et ça lui a donné beaucoup de force. Et dans les livres qui ont été faits sur lui, dans les différents interviews, même là, il est toujours, ça lui a donné beaucoup de force, beaucoup de confiance en lui, qui se voyait.
Que vous avez transmis, c'est sûr, voilà. Des valeurs aussi.
Ça a été très important. Ah oui, dès tout petit, je les ai. Ils viennent d'ailleurs le 25 juillet, le jour de l'anniversaire de la mort de leur grand-père, ils viennent tout le temps. Ça leur a donné beaucoup, beaucoup de force.
Et vous, monsieur Saint-André, vous avez fait quoi après? Vous avez fait des études de...
J'ai pas fait grand-chose, j'ai fait surtout du sport.
Du sport.
J'ai fait beaucoup de sport. Et après, j'ai travaillé dans le bâtiment et les travaux publics toute ma vie.
D'accord.
Il y avait plus une centaine de personnes, ouais. Donc je m'occupais de...
Donc aussi, ça y allait pour la reconstruction, quoi. Ça reconstruisait de partout.
Et vous avez vécu donc toute votre jeunesse sur le plateau du Vercors?
Oui, c'est-à-dire que je suis parti au lycée d'altitude à Briançon, j'avais 12 ans. Et je revenais en vacances, à ce moment-là, c'est pas les internats de maintenant, je ne suis pas pendant la même, voilà, pas grand vacances. Et je revenais tout le tard, donc ma mère est toujours restée là, bien sûr.
Oui.
On nous a reconstruit la maison qui avait été détruite.
Bah justement, des travaux de la reconstruction, là. Quels sont les moments que vous vous rappelez?
Oui, je me rappelle du tout. Hein.
Ce
qui s'est passé, c'est que la construction, il y a eu de 1945, on est rentré dans d'autres maisons. J'habitais en plus à la face de la cour des fusillés. La maison.
D'accord.
On est rentré en 1952, il y a eu 7 ans de reconstruction. On a d'abord vécu dans des...
C'est rapide, quoi.
On a eu d'abord vécu dans des baraquements en bois. On se gelait là sur la place, et après on a eu des baraquements en dur, ce qui est toujours la folle. La folle, c'est maintenant les,
d'accord.
D'accord, ouais.
Les trucs de Paris. Là.
Ouais.
Et on a vécu là. On est rentré en 52 dans des maisons qui étaient bien sûr sans chauffage, où il n'y avait qu'un étage de fait, le deuxième étage. Alors on l'a fait à nos frais 7-8 ans après. Donc, c'était difficile.
La mairie dans laquelle vous êtes premier magistrat a été reconstruite quand assez rapidement.
Dans ces mêmes années.
Dans ces mêmes années.
Reconstruit de période de 45 à 52. C'était terminé. C'est terminé sans être tout terminé. En 52, on n'a plus aménagé dans la maison. Comme les autres personnes du village. Puisque la chapelle a été détruite par les bombardements du 12 juillet au 3 quarts. La partie est de la chapelle, à cause de la colline de Fort-Vieille, les avions de l'époque avaient de la peine à pouvoir aller là-bas. Donc les chasseurs alpins et les parachutistes ont fini de brûler quand ils sont arrivés là, ce qui était encore debout. Et ils ont brûlé, ils ont fini de brûler là. Avec les chasseurs alpins, il y avait deux compagnies de pionniers, c'était les gens qui étaient chargés de brûler,
ouais.
De démolir.
Donc, oui, c'était pas, il fallait aller
jusqu'au... Ça a été démoli à 15% à chapelle.
Il fallait aller jusqu'au bout du...
Comme Vassure.
Ouais. Nous, on avait quelques petites questions, justement, par rapport à votre... J'allais dire, vous êtes premier magistrat, c'est, à mon avis, pas pour rien. Vous défendez des couleurs de la France, votre fils aussi. Je veux dire, vous êtes tous les deux sous l'étendard.
Une fois la Marseillaise sur des terrains de rugby dans tous les coins du monde.
Ouais. Hein? Oui. Donc c'est quand même un honneur aussi pour nous d'être là. Qu'est-ce que vous, par rapport à la difficulté du monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez laisser comme message à des jeunes? J'allais dire, des jeunes qui, quand vous aviez l'âge, vous êtes parti en Allemagne pour retrouver un assassin de votre père.
J'ai l'habitude de recevoir tout au long de l'année des classes de 3e des collèges et des cours moyens 2e année, plus la 2e guerre mondiale et au programme de ces classes-là. Alors, je suis parfois estomaqué de ce qu'on me dit, des jeunes qui me disent, quand j'ai raconté à la cour succinctement un peu ce qui s'est passé. Dernièrement, je recevais une école de Paris, pas dernièrement, il y a 5-6 mois de ça, et il y avait un petit noir qui me dit mais les associations ne vous ont pas aidé. Je dis, mon pauvre, nous on s'est retrouvés sans rien du tout, hein. Sans maison, sans argent, sans rien, il a fallu survivre, il n'y avait rien. Je crois que bon, les générations ont changé. Moi, je vois, j'ai des enfants, des petits-enfants, surtout les petits-enfants, les enfants qui ont 11 ans, qui sont plus petits. La vie est tellement facile pour eux que...
Cette vie facile, ils la doivent aussi à ces combattants.
Ouais. C'est ce que je leur dis toujours. Je termine toujours les petits laïus que je leur fais, y compris aux classes de 3e. Je leur dis... il faut vous souvenir qu'eux aussi, ils étaient jeunes. C'est des jeunes.
C'est ça.
Bien sûr.
17 ans. Le petit Roland, l'un des deux frères Roland qui s'est fait tuer, il avait 17 ans, il avait passé son bac à Roland.
Ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme.
Et nous sommes toujours sur Radio Diwa, sur 107.5, des voix sur un plateau, avec Serge Saint-André, qui nous conte son histoire. Son histoire, c'est celle qu'il a vécue, être enfant pendant la guerre et grandir dans le Vercors, après-guerre.
Et l'avenir de votre canton, justement, comment vous le sentez au niveau...
Eh bien, le canton...
La relation humaine qui existe.
Le canton ici, bon, la population a beaucoup changé, plus 30% de la population maintenant, et ce sont des gens qui sont venus d'ailleurs. Hein. Mm-hmm. J'ai rien contre eux, d'ailleurs. Et ça a changé, donc... Maintenant, on a un problème ici, c'est qu'on est excentré, on est loin de tout. On n'a pas comme le Vercors visé à la proximité de Grenoble. Nous, on est loin. Donc, plus près, c'est Romer. Plus près, c'est Romer. Hein, c'est pas une grande ville. Valence, un peu plus grand. Donc, il faut arriver. Les gens ici, moi, il y a 500 ans, ma famille est là, peut-être plus. Ils ont toujours vécu ici. Bon, les gens vivent de l'agriculture, ceux qui sont là depuis longtemps. Bon, le commerce, le tourisme a permis de diversifier, mais bon, c'est difficile de pouvoir vivre peut-être bien dans les années qui vont venir. Surtout, il y a ce problème que les décideurs, ils sont à Paris, ils ne se rendent pas compte que, ici, on est loin de tout.
Ça demande un sacré travail hein, d'être premier magistrat d'une commune rurale sans lequel il n'y a pas beaucoup de...
Je me bats pour un tas de choses.
Là. Il faut vous battre dans tous les sens.
Les gens de Paris, les énarques, ils arrivent à Valence. Oui, genre, on descend de la gare, dans un quart d'heure, on est chez vous. Ouais. Non, dans un quart d'heure, c'est pas... Il y a un décalage profond entre la vie parisienne et puis nous, hein. Donc c'est difficile, il faut qu'on arrive à maintenir nos services le plus possible, c'est ça qui,
va être dur. Hein.
C'est ça qui va être dur. Ouais, Christophe, fais-moi arrêter Zalzin parce qu'il ne peut pas enregistrer. D'accord.
Il est sympa ce Christophe. C'est des employés communaux dignes d'équipe de rugby, non?
J'en ai 6.
Hein, c'est une équipe solide.
Oui, hein. Ouais, ils sont bosseurs. On attaque à 3h du matin, le déneigement.
Ah, oui,
on a des problèmes, parce qu'on a... On est une commune de 800 habitants, on a 3000 l'été, mais on a un budget qui représente 4-5 fois les communes du même nombre d'habitants autour de la région.
Ah, et que le déneigement, l'entretien des routes, c'est beaucoup plus... Le local, quoi, ça se dégrade beaucoup plus vite, gèle, dégèle. Alors nous, notre émission, M. Saint-André, elle est souvent axée sur l'environnement, parce que on se rend compte que l'environnement, pas forcément les petits oiseaux et autres, hein, ça touche aussi l'ensemble du fonctionnement, hein, c'est-à-dire que il y a des changements, vous ne serez pas sans douter qu'il y a des changements aussi importants d'environnement aussi, dû au réchauffement climatique, dû à des... Est-ce que vous en avez pris conscience, ça aussi, dans votre vie? Par exemple, on me disait à Gagnères, avant, il y avait un téléski. Là, ça n'est plus.
En fait, le premier téléski, ici, n'a pas été mis à Gagnères. Il y a eu un fil neige.
Un fil neige.
Qui a été mis au baume, là, de l'autre côté.
Oui.
J'avais 1950.
D'accord.
Et puis après, on a mis là-bas ce tire-fesse, là. À ce moment-là, il y avait beaucoup de neige. Moi, il m'est arrivé de faire du ski au mois de juin. Il y avait encore une plaque de glace d'une centaine de mètres de large, où on faisait encore du ski.
Vous étiez un sportif acharné, quand même.
Ah oui, ouais, j'ai passé ma vie à faire ça.
Entre le foot, le ski aussi, voilà. Hein, le ski sur Briançon.
J'ai commencé par faire
au champ de Mars.
C'est pour ça que je suis allé à Briançon. Là, je faisais partie du CSHB, le club
d'hiver
du Briançonnais. Je faisais partie du groupe de compétition. On s'entraînait bien sûr au junior à ce moment-là. Et c'est André Blanchard, le père d'Alain Blanchard, qui était un brillant descendeur, qui était à l'école avec moi. Donc on allait à Serre-Chevalier. J'ai joué bien sûr au foot, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait beaucoup de choses. Après j'ai fini par le tennis jusqu'à 52 ans, jusqu'à j'arrête.
Alténie jusqu'à 52 ans. D'où le ceci explique. D'accord, ceci explique les terrains de tennis.
J'avais monté le club de tennis.
Ceci explique les terrains de tennis à la chapelle.
Pendant 20 ans, il y avait un club, là, on faisait un grand tournoi chaque année.
D'accord.
Là, j'ai remonté un club de rugby, là, pour une école de rugby.
Ah, mais là, j'ai vu que l'école de rugby, c'est une école. Les jeunes de Vassieu, c'est quelque chose, hein, rugby maintenant.
Du plateau.
Ouais. Ah, ouais, non, mais
là. On a eu beaucoup de Vassieu.
Ouais.
Donc, bien sûr, là, ça s'est réchauffé, parce que je disais à madame tout à l'heure, quand vous étiez sortie, que moi, la neige qu'il y a maintenant, c'est de la roupie de Sansonnet à côté de ce que j'avais quand j'étais petit. Hein. Moi, je passais, comment dire, 3 mois, j'allais en ski de chez moi là-bas à l'école, on allait en ski.
Ah oui, d'accord.
Alors maintenant, bien sûr, ça se réchauffe. Bien qu'il fait quand même encore froid.
Il y a des hauts et des bas.
C'est difficile à se rendre compte, je ne sais pas. Je suis des fois sceptique parce que 300 ans avant Jésus-Christ, il y avait des mélèzes à 1600 mètres d'altitude. Bon, moi, je crois qu'il y a des cycles. Je ne suis pas convaincu que la Terre se réchauffe et ne se refroidisse pas. Donc, il a fait déjà très chaud, très très longtemps. Et après, alors je ne sais pas, est-ce que ça ne reviendra pas?
Ah, bah c'est possible.
Je suis candide dans la matière, je ne suis pas capable de.
Mais c'est vrai que le politique, c'est aussi, peut-être pour vous qui avez vécu donc, cette histoire tragique, c'est aussi de voir l'avenir et de se dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place.
Ouais, le problème du Vercors drômois, c'est que. Donc, comme je disais, on est en excentré, on est loin de tout. Et il faut qu'on tape une clientèle, à mon avis, au-dessus de ce qu'elle connaît. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on a une clientèle de gens pas argentés qui viennent ici. Seulement, on a un problème de. Comment dire,
d'infrastructure.
Un problème d'infrastructure, on n'a pas d'hôtel. Je suis en train de voir comment on pourrait faire un complexe aux Obanos. Il faut faire venir ici des gens qui ont plus d'argent. Parce que c'est bien beau de tabler sur le biathlon, sur le ski de fond, sur ça. Mais ce n'est pas ça qui va amener une clientèle qui a de l'argent. Clientèle qui a de l'argent, si on a des infrastructures, moi je parle mieux du sport, c'est un truc que je connais très bien.
Oui, je vois bien ça.
Faites venir en stage, faites venir l'équipe de rugby de Montferrer une semaine ici en stage. Il y a 10 000 personnes qui vont venir. Et 10 000 personnes qui ne vont pas acheter un sandwich et aller le manger dans leur voiture, qui vont dépenser de l'argent. C'est une clientèle comme ça qu'il faut cibler. Moi, j'ai fait venir quelquefois des équipes là. Et seulement, on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas les terrains, pas d'hôtel, pas d'infrastructure. Le gros problème, il est là. Tant qu'on n'arrivera pas à cibler une clientèle un peu plus huppé que celle qui vient. Je n'ai rien contre ceux qui viennent. Je suis très content qu'ils viennent, c'est pas ce que je veux dire. Mais tant qu'on n'arrivera pas à faire venir des gens, une clientèle un peu plus importante...
Est-ce que vous pensez, parce que c'est vrai que le mouvement, les gens qui ont fait la résistance, qui ont été très marqués, qui avaient des valeurs, même s'ils étaient jeunes, qui au départ, c'était surtout des valeurs de dire on ne veut pas être à l'STO, on veut pas, mais il y avait quand même des fondements... j'allais dire presque du Front populaire derrière, et d'un coup, ils se sont retrouvés ici. Est-ce qu'après-guerre, est-ce que ces personnes-là, hormis les commémorations, vous pensez qu'elles ont agi sur le territoire?
Elles ont eu beaucoup de peine, beaucoup de peine pour la plupart à se remettre dans la vie de tous les jours. Ceux qui avaient quitté leurs études, je connais qui avaient quitté le lycée, là, en particulier dans le premier lycée de Valence, qu'il avait quitté le lycée. Il n'a pas pu se remettre, il a été obligé. Après, il s'est engagé comme mercenaire en Malaisie. Il y en a eu plusieurs. Certains sont restés dans l'armée. Ceux qui sont restés dans l'armée sont mieux adaptés. Mais ça a été très dur de reprendre des études. On vient d'arrêter 3 ou 4 ans. De reprendre des études, ça a été pratiquement impossible pour la plupart.
Ça a été impossible pour la plupart, ouais.
J'en connaissais beaucoup, pas mal, puisque... Surtout ceux qui étaient du 11e cuir, parce que mes tantes étaient au lycée à Romain, donc des jeunes qui avaient quitté le lycée ou autre, et des gens, ils avaient beaucoup leur âge, ces jeunes-là. Donc ils étaient amis avec plusieurs, ce qui m'a permis dans mes recherches, en voyant qu'en Allemagne, je n'avais pratiquement rien attiré à, à voir ces gens-là. Il y en a un qui était après capitaine dans l'armée, un autre, celui qui était allé en Malaisie, était revenu en France. Ces gens-là, ils m'ont donné beaucoup de renseignements sur, sur la résistance.
Et le travail que vous avez fait, qui tourne autour de, bah, de cet événement précis, de la mort de votre père, est-ce que vous l'avez gardé, laissé quelque part pour...
Ben justement, je n'avais rien fait du tout. Puis comme je suis gravement malade depuis 2 ans et demi, je me bats contre une maladie, contre un cancer. Là. Il y a 2 ans en arrière, pour la cérémonie du 25 juillet, mon second fils il m'a dit « Tu n'as rien écrit, il faut qu'on t'enregistre. » Il m'a enregistré pendant le discours. Je fais un discours qui dure 1 h 15, 1 h 30, grosso modo. Puis cette année qu'on a fait la passation des drapeaux, puisqu'on fait partie à la chapelle des 18 communes sur les transmédaillées de la résistance, à tour de rôle, par ordre alphabétique, il y a une passation de drapeaux. Cette année, c'était chez nous. Ça a lieu une fois tous les 18 ans. Donc là, le discours que j'ai fait, parce que je le fais de tête, j'écris jamais rien, je l'ai écrit cette fois, pour le garder. Donc je l'ai, et puis j'ai des documents chez moi... que j'ai pu glaner à droite à gauche sur des traductions de livres allemands. Donc je vais laisser ça à ma famille.
Le film avec Mandela sur le rugby.
J'y étais, moi.
Ah ouais, vous y étiez ?
En 95.
C'était fantastique comme.
Ah ouais, comme ambiance, c'était impressionnant.
On voit qu'il y a eu.
Et ils ont tout fait pour faire gagner l'Afrique du Sud parce qu'ils ne méritaient pas de
gagner. Ah, ah.
En demi-finale, ils refusent 3 essais français à Durban. Il y en a 2 qui sont valables. Il fallait tout faire pour que. Mais c'était impressionnant la réception. Alors, je me trouvais en haut de l'Ellis Park, on avait des places très très hautes pour la finale. Je me trouvais avec les joueurs français, puis certaines épouses de ces gars-là. On était haut, on se croirait en avion en haut de l'Ellis Park, on se croirait comme dans un avion. Il faut voir la nuit qui a suivi à Johannesburg, j'ai jamais vu ça de ma vie. Une liesse indescriptible de.
C'était
je peux même pas le raconter.
Une pression qui d'un coup se relâchait. C'est bien retransmis dans le film, même si c'est fait pour tout le monde, mais je veux dire.
La nuit là qui a suivi la victoire des Springboks, ça a été quelque chose. C'est un pays difficile. Hein. C'est un pays pour arriver à pouvoir gérer ce pays, il est ingérable. Il y a 17 ethnies différentes pour commencer. 17 langues différentes. Parce que moi, là où je vais, j'aime bien. J'ai passé pendant 12 ans en Angleterre, les Anglais c'est des cons, c'est ici, là, comme tous les Français. Petit à petit, j'ai appris à en connaître, je suis venu à l'université, j'ai vu que c'est ton rien. Et là-bas, donc, puis j'ai traversé toute l'Afrique du Sud, on a profité. Donc c'est un pays difficile, 17 langues différentes. Les Blancs qui ont tous les pouvoirs encore, qui détiennent toute l'argent. Faut voir les. Quand on part de Johannesburg, on va à Pretoria, qu'on descend vers le Kruger Park. Il y a alors des townships de partout, et puis de temps en temps.
across the burning water.
Victoria Mwenge.
Hasi Bonangu Tati Wechu Chinga La Pe Kuna La Wafe La Kuna
Neo Agate.
Hasi Bonanga
Hasi
Bonangu Mfo Wechu Chinga La Pe Kuna La wafe la kona
Haungiti hey wena
Hey wena
Hey wena
Hey wena
nawe
So figa nini la siya kona La siya kona
Hasi bonanga
Voilà, quelque chose à rajouter sur
le... j'ai deux choses à rajouter. J'ai d'abord que je souhaite à personne de vivre ce qu'on a vécu. Que moi, personnellement, ça a bousillé la vie de ma mère puis la mienne. Et que les jeunes générations se souviennent que c'est peut-être grâce à ces gens-là qu'ils sont aujourd'hui libres et qu'ils ont une vie autrement agréable que ce qu'on a pu avoir de nous entre les années 45 et 60. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je reste à votre disposition.
Eh bien, on transmettra.
Ouais, merci.
C'est un plaisir beaucoup de vous accueillir dans nos studios pour un autre moment. Si vous avez, voilà. Ben, merci, monsieur le maire.
Enchanté d'avoir fait votre connaissance.
Voilà. Je vous remercie, merci. En tout cas. Et puis, à très bientôt sur Des Voix sur un plateau.
Voilà.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. bruit du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute.
Bien, des voix sur un plateau et pas n'importe quelle voix, Ned.
Pas n'importe quelle voix. Les voix du passé qui vont vers le futur.
Oui, qui vont vers le futur. Et tu vois que notre ami, maintenant, Serge Saint-André, a plein d'idées par rapport au Vercors. Et c'est ça qui fait du bien à voir. C'est que, en tant qu'homme politique, en tant que maire, eh bien, il visionne l'avenir malgré un passé très lourd.
Tout à fait, avec des constructions.
Des constructions pour les sportifs. Alors, si l'équipe de France a perdu contre les Italiens, ce n'est rien. Un petit stage dans le Vercors, et puis hop, un petit peu de tube peut-être, un coup de tube sur le terrain. Là.
Et voilà, l'altitude, on le sait, donne de l'énergie.
Voilà, là, moi je propose qu'ils fassent des stages à Vassieux, parce que les terrains sont longs, alors on agrandira les terrains, comme ça. Ça va être assez sympa. Et bien, à très bientôt.
Alors à la semaine prochaine sur Des Voix sur un plateau, sur Radio Des Voix.
Et merci Monsieur Saint-André.
Merci.
Mamba.